aujourd'hui, seconde partie de notre entretien en 140 questions. Question 57. Serge Rudy, dans un répertoire de vos premiers écrits que nos enquêteurs ont subtilisé dans votre bureau pendant que vous ramassiez les olives dans le jardin, nous avons trouvé cette phrase et j'aimerais vous interroger à son propos. Comment entrer dans une histoire en étant tout à fait sûr d'avoir fini toutes les œuvres? Et un peu plus loin, je trouve, comme s'il fallait qu'il y ait une fin. Fin de citation. Je continue. Ne faites pas l'impatience. Dans la pièce qui lui fit connaître sur le cours Julien, si ma mémoire est bonne, les brosses, vous dites à quoi sert l'histoire? Ma question sera, pensez-vous, monsieur Valetti, qu'on puisse se passer d'une histoire, de son début et surtout de sa fin? Encore une fois, où voulez-vous en venir?
Des histoires. Mais facilement, il suffit de sortir dans la rue et de croiser n'importe qui et de lui demander de vous raconter ces trois dernières journées et vous avez des histoires à profusion. Non. Ce qui nous manque, c'est la manière de raconter. Arriver à trouver la manière qui fera que cette histoire facultative nous touche au point de nous faire oublier nos propres histoires. Alors, si la fin est au début, et le début, au milieu, ça n'a aucune importance. Pour moi, le début, c'est toujours un type qui garde sa voiture en pestant pour aller demander un billet pour entrer dans une salle où on lui a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, du théâtre, oui, mais ça peut être aussi un procès, une vente aux enchères, une course de chevaux, un meeting politique, un rendez-vous d'amour dans un hôtel borgne. Quoi qu'il en soit, il doit toujours garder sa voiture, le pauvre type. Du début. Et si c'est un piéton, c'est pareil, parce qu'il y a toujours un type en voiture qui essaie de se garer et qui risque de le foutre en l'air en faisant son créneau. Après, il va de s'excuser. S'il l'a écrasé, il a la faim de s'excuser. C'est clair, non?
Évidemment, vous ne répondez pas à la question. Vous l'évitez et donc je dois la reposer en termes crus. Croyez-vous que la sacro-sainte modernité, le mot est lâché, vous ne l'éviterez plus à présent. Comment votre soi-disant modernité pourrait-elle, par votre plume, venir troubler la paix méditerranéenne?
Alors aussi, il faudrait s'entendre sur ce qu'est la paix méditerranéenne dont vous parlez. Savoir ce qu'elle est pour savoir ce qui peut venir la troubler. Or, je ne vois pas de paix, je ne vois pas la guerre. En tout cas, dès qu'il y a un peu de monde. La paix, je l'imagine simplement quand on est seul dans une crique au soleil à les arder. Oui, le seul instant de paix profonde, c'est la solitude face à la mer. Bien sûr, on peut s'empêcher d'imprimer ce que peut être, d'imaginer ce que peut être l'arrivée à l'horizon d'une armada des envahisseurs. Alors, on courait sur les rochers pour aller sur le village le plus proche. Mon pied s'érafle sur les rochers. Ça y est, ils arrivent! Longtemps, nous avons dû regarder la mer avec inquiétude. Et profondément, ça nous reste là, dans le fin fond du cerveau reptilien, cette inquiétude. En tout cas, je suis bâti comme ça, si proche de mes ancêtres inquiets, comme ma grand-mère maternelle, par exemple, est née en 1886. Et donc son père, elle, mon mari, mon père, est né en 1845. et son grand-père, dans la journée, était né en 1818. Alors ça peut être beaucoup de choses.
Je vois que je dois être tout à fait clair. Serge Valetti, pensez-vous rivaliser avec la Sainte Histoire? Oui, oui, oui. Je parle bien de la trilogie de M. Marcel Pagnol.
Rivaliser, sûrement pas rivaliser. Et penser, rivaliser encore moins. Ça me demanderait beaucoup d'explications parce qu'il y a quelque chose là-dedans, comme on dirait, d'une adhérence. Et quand je pense à Pagnol, je pense d'abord aux acteurs, à Rému, à Ferrandel. Qui écrivait quoi? Et après, je pense à ces lignes, comme La Gloire de mon père, Le Château de ma mère. Et là aussi, je me demande, mais qui écrivait quoi? Certainement, il y a la présence d'un réservoir commun, Marseille, la ville, comme un personnage, constitué par tous ces habitants qui parlent, racontent, sans arrêt, passant du tragique au comique dans la même phrase. Et inversement, alors, oui, présence de Marseille, comme on dirait la Provence en une facette, Durance indomptable, vous voyez, comme dans les connaissances du monde de mon enfance, au ciné-charles, quand on allait les voir presque en pantoufles, il y avait la famille Malusier qui revenait de l'Amazonie, qui avait vu les Tupas Timaros, ou des choses comme ça, et donc il montrait des photos, des films, muet, noir et blanc, et puis le type il mettait un petit pick-up, et puis. Et il dit voilà, il y a un fils là, il a glissé sur le rocher. Et ben voilà, l'enfance, un rêve de théâtre à reconstruire sans fin pour retrouver le plaisir de l'enfance, le vrai but. Voilà.
Magnifique. Question 60. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le territoire complexe de la biographie. Mais puis-je vous demander, à brûle-pourpoint, si vous auriez un jour imaginé qu'on puisse faire, vous, une biographie?
Bien sûr. Je ne vis que pour ça. Faire ma biographie. Ça va même plus loin, puisque, en général, les gens vivent, et puis on dit, bon, ben, tiens, voilà, voilà donc leur biographie. On s'en aime pas. On n'a qu'à raconter ce qu'ils ont vécu. Moi, j'essaie de faire l'inverse. Je commence par écrire mentalement ma biographie, et après, je vais la suivre pour vivre. Alors, le problème, évidemment, c'est que je n'arrive pas à suivre exactement le pied de la lettre, ce que j'avais décidé avant. Donc, je suis obligé de rectifier a posteriori ce que j'avais prévu de vivre. Je dérape. Je dérape souvent. Mais tout est dans l'art du dérapage. On a quelques biographies des gens célèbres. Bon, ben, il y en a toujours plusieurs. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'une seule vie. Et les auteurs se contredisent. Pourtant, le type n'avait vu qu'une seule fois, une seule vie. C'est donc bien que l'une, la biographie, ne recouvre pas du tout complètement l'autre. La vraie, la vie. Il y a des débordements, des vrillures, des aspérités, des barbes, comme on dit, des pièces moulées qui ont des barbes. Et on prend deux blocs, ça démarre, si vous voulez. Ouais, faut être plus précis. Là, il faut être très très précis, puisque nous touchons le brûle pour point, n'est-ce pas? L'enfant qui achète son sablé au chocolat tous les jours, à la même heure, au même endroit, quelque part se transforme en personnage d'une biographie à venir. Et le goût même du sablé se modifie donc avec de petites noisettes dessus, de cet acte a priori à l'odeur. Découle toute une part de vie intense à décoder, non?
À quel âge une telle pensée vient-elle?
4, 5 ans. Quand on apprend à écrire.
Cela me semble dans l'ordre des choses.
Bon.
Auriez-vous connu le syndrome enfantin qui consiste à répondre dans son rêve secret aux questions d'un journaliste à propos d'une pièce qu'on n'a pas encore écrite? Un rêve enfantin, devenir célèbre?
Drôle de question. Je ne sais pas à quel bout la prendre. Un rêve où je répondrai à des questions en rapport avec une pièce que je n'aurais pas encore écrite. Je vais la chercher. Bon, d'abord, il faudrait que je rêve d'un journaliste. Et ça, ça m'est encore jamais arrivé.
Avez-vous déjà posé pour un peintre, un sculpteur? Comment êtes-vous avec les photographes? Aimez-vous qu'on vous tire le portrait? On connaît relativement beaucoup de films de vous dans la prime jeunesse de votre art. Soignez-vous votre biographie?
Non, non, c'est pas une question sur la biographie. Posez pour un peintre. Un sculpteur. Bon.
En fait, plus exactement,
une sculpteuse.
Oui, mais sculpteur et des fils de fer, alors ça va pour bien donner. Hein. Enfin, je crois qu'elle m'a fait cuire deux œufs avec du ketchup. Mais voilà, un détail biographique très important. Du ketchup, oui. Donc sur ma place du père aussi, j'ai eu, comme ça, une expérience très intéressante, un monsieur qui découpait les profils au couteau avec du papier noir, et il m'a fait une sorte de caricature, et bon, avec les cheveux frisés, c'est assez facile. Et puis, bon, il y a aussi les séries de photographes que j'ai sens. Ça compte. Parce que dans le temps, quand on faisait une série de photographes, on avait qu'un avec quatre, et sur trois, on avait le droit de faire des grimaces. Et on se servait d'une. On avait besoin d'une, on sortait quatre. Alors, on avait le droit de faire trois grimaces et une bonne. Mais alors, maintenant, ça ne marche plus tout comme ça, et on ne peut plus. C'est quatre fois la même. C'est nul. Alors, j'ai aussi le film en noir et blanc que j'ai fait. Donc, mais le noir et blanc est orthochromatique. Ça, je pense que c'est un des derniers films en France qui a été fait comme ça. C'était un monsieur qui habitait à Renaissance, près de Nîmes. Et alors, il avait la particularité d'avoir restauré les derniers chapitres et les regardés aussi. Et donc, ce laboratoire pouvait tirer, c'est le seul en France, à tirer de l'orthochromatique. Et donc voilà, ça m'a permis de, comme ça, un peu comme si j'avais attrapé la queue d'un reste ou quelque chose, juste introduit un ongle dans la fin d'une période épique et pionnière. C'est bien, c'est vrai. C'est la plus belle chose que j'ai faite muette.
Question 67. Vous m'avez confié un jour que vous étiez en train de détruire les tonnes de papier que représente la fabrication d'une œuvre d'art écrite. Que vous ne gardiez que des textes édités. J'ai pensé à vous avec beaucoup d'admiration. La méritez-vous ou bien m'aviez-vous encore raconté une histoire?
Non, c'est vrai. Le but étant de lisser le plus possible. Pour arriver au minimum, c'est la quête du lisse. Du lisse. Alors, détruire les moules, comme les cirques perdurées, c'est ça. Alors, faut dire qu'avant, il y avait le premier jet à la machine. Alors, on faisait des fois avec un carbone sur du papier pelure. Bon, c'était très très fatigant. Enfin, ça faisait comme un petit millefeuille qu'on mettait dans la machine, ça. Et puis alors, après, les rectifications inévitables. Donc ça donnait bon, d'autres retards, et d'autres copies, des doubles, des pelures. Enfin bref, pour une pièce de 50 minutes, ça vous faisait pas 550 pages. Bon. Alors vous allez imaginer, pour 10 pièces écrites, ça s'entassait partout. Donc ça faisait des piles, tout se mélangeait, c'était l'enfer. Et pareil pour les scénarios, hein, même pire. Enfin les romans, les textes, ceci, ça. Alors maintenant, je jette tous les intermédiaires pour garder que le final. Et le final, je le grave sur un disque dur qui tient dans ma poche. Donc, je peux me balader dans la rue, les mains dans la poche, en ayant sur moi tout ce que j'ai écrit, et personne ne s'en rend compte. Il n'y a que moi qui le sais. Par contre, au 19e siècle, il m'aurait fallu une diligence qui allait par quatre chevaux, et là, plus bien léger. Atteindre l'évanescence angélique.
Où on va aller voir angélique? Vous avez des
nouvelles
angéliques? Bien. D'ailleurs, je pense qu'un des plaisirs de publier des livres est le fait de s'en débarrasser officiellement.
Je crois que d'ailleurs qu'il y a un dépôt légal, où les étudiants sont obligés de déposer leurs livres. Et puis ça va à la Bibliothèque nationale, même si c'est une immonde merde, ça fait rien, ils prennent. Alors ils te le rangent, ils le placent, ils mettent dans des étiquettes dessus, et puis voilà. Ça part dans le flou avec tous les autres, les traités de chimie, de balistique, ou les essais sur la métamorphose. On s'en fout, c'est la société qui les garde pour toi. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais je crois que ce système va avoir une fin, comme l'automatique. On est à la fin de ce procès. Pas possible, ça. La société va couler sous le poids de tout ce que les gens écrivent. N'importe quel type qui a eu un fort OK, il est permis de pouvoir acheter de moi. Alors il y a des types en blouse qui rangent ça. C'est de la folie, quoi. Au cours, à la catastrophe, c'est structurellement apocalyptique. La fin de l'Empire romain à côté syrien. Un jour, les barbares vont venir et vont brûler tout ça. Ils vont violer les types en blouse et ça prend la place sur les rayonnages. Mais je crois, cher intervieweur, que je dévie légèrement. Non.
Dans un autre sens, les moments du brouillon et bizarrement les moments du commentaire ne sont-ils pas compris dans votre écriture? N'êtes-vous pas un peu comme la religion juive qui comprend le texte et ses commentaires perpétuels abondent? La ville en somme et ses faubourgs.
Principalement, c'est quand même du théâtre. Donc, c'est destiné à être mis sur des scènes. Bon, à la limite, c'est au spectateur de faire un commentaire, mais je ne m'occupe pas de ça. Peut-être, pour aller dans votre précédente question, et ainsi de suite, là, il faudrait, dans votre sens, on pourrait dire une pièce codante, une autre, la précédente, et ainsi de suite. Ça reviendrait à dire que j'écris toujours le même, sous des formes différentes. C'est possible, ça. Il faudrait se pencher dessus sans tomber. Alors, imaginez qu'en fait, au lieu d'aller vers de plus en plus de textes, au contraire, je serais plus comme le saumon qui essaierait de revenir à la source, à contre-courant, chercher l'origine, la vérité, et puis crever. Ça pourrait être une partie de l'explication. Donc, je veux dire, une explication. Pourquoi on monte surtout les auteurs morts. Voilà. Alors moi, je pense, Olivier, que c'est peut-être l'explication de la tienne. C'est que peut-être, comme il est mort, le type, on se dit que sûrement dans tout ce qu'il a écrit, il a dû laisser une trace de la vérité qu'il a atteinte en preuve. Ah, ça serait une belle explication. Mais je ne sais pas si elle est vraie.
Question 70, Serge Valéry. Revenons un peu à Platon. Vous avez en commun avec ce grec la mer dans le regard, le goût du dialogue et l'obsession souriante envers les affaires humaines, le commerce du langage donc en contemplant la grande bleue. Vous savez que Socrate n'a rien écrit lui-même, que quand Platon écrit tout seul, c'est un faiseur de système contesté. Socrate, lui, sans son biographe préféré, n'aurait laissé qu'un souvenir mythique et surtout celui de sa mort exemplaire. Prenons le texte dialogué qui s'appelle Alcibiade. Voici un jeune loup de la Tréhote qui vient se faire les dents sur le dialecticien. Et voici Socrate qui, question après réponse, confond Alcibiade et le convainc, et nous, donc le public de l'époque et de toujours, de son incapacité à diriger le pays. N'est-ce pas une sorte de théâtre politique? Vous reconnaissez-vous dans ce personnage de l'accoucheur des filles? Êtes-vous, Serge Valéry, un écrivain politique?
Ça me garde de la commission. Bon, je vais essayer de faire un petit effort. Donc, vous nous expliquez ça. Bon, c'est trop l'école, il y a trop de. Il faut avoir des références. Faut avoir fait ceci ou ceci, écouter un tel, avouer par confiance. Moi, je n'ai rien à vrai. Alcibiade. Bon. Moi, je suis réfractaire à ça. C'est-à-dire. En plus, je suis.
sûr que c'est mal traduit. Il faudrait connaître le grec, il faudrait étudier, s'emmerder et à se prendre que des notes nulles. Il faut quand même se rendre compte que moi, j'ai eu un moins de 52 en latin. Sur 20. Alors, ça marque quand même. Tu vois, quand tu as un moins de 52 en latin, tu rentres chez toi. Il faut trouver une excuse, il faut trouver. Il faut avoir beaucoup d'humour, tu vas te faire démonter la tête à tes parents. Alors non, moi, ton sabré au chocolat, il a une drôle de dégoût. Hein. Les noisettes restent en travers, j'adore. Voilà mon cahier, papa. Moins 52, il est en rouge. En plus, il marque en rouge. Oui, c'est, ça marque.
Changement de bord. Mais nous restons dans le grand thème de la biographie. Un mot revient sur vos lèvres suivant, le plaisir. Peut-on ensemble faire le tour de cette hédonie ? Plaisir de table, boire, manger, plaisir d'amour, plaisir des mots, les trois ensemble. Je n'ose mettre le football au rang des plaisirs. Ai-je tort ?
Je ne vois qu'une seule chose pour lier tout ça, le plaisir de souffrir. Comprenne qui peut.
Parlons de la jalousie un instant. Au milieu des auteurs de théâtre vivant, quelle position occupez-vous, vous semble-t-il ? Novarina, Rinaber, Mignana, Coltès. Ah non, celui-là, il n'est pas vivant, il est mort.
S'il y a une chose qui ne marche pas dans cette histoire, c'est le concept d'auteur vivant opposé à l'auteur mort. C'est absolument débile de différencier les deux états. Bon, la seule utilité de cette distinction, c'est une utilité bureaucratique et administrative. Ou alors, s'imaginer que l'auteur vivant a la possibilité d'écrire encore des pièces, par opposition à celui qui est mort et qui ne peut donc plus en écrire. Ouais. Ça, c'est faux, pour deux raisons. Premièrement, il y a des auteurs vivants qui n'écrivent plus de pièces, pour diverses raisons, qui leur appartiennent, enfin, pour en faire quand même une liste assez longue. Et deuxièmement, il y a des auteurs morts dont on ne connaît pas encore les pièces. Là aussi, pour diverses raisons. Perte, oubli, disparition. Pour Raymond Roussel, par exemple, on a retrouvé récemment une pièce dans un garde-meuble. Il avait laissé, il y avait des pièces, donc il était mort de quoi ? Il était vivant, ces pièces. C'est encore vivant, mais il n'y a pas de problème. Alors c'est justement l'honneur et la beauté de ce métier de pouvoir se mesurer avec des auteurs qui ont 100, 200 ou 2500 ans. Par contre, il est nécessaire de soutenir la création des textes d'auteurs vivants, car ceux-ci ont besoin de gagner leur vie. Tandis que les auteurs morts, ils n'ont pas besoin de gagner leur mort. Alors contrairement à ce que dit rapport du Centre national du théâtre dernièrement, là, où ils font une liste, puis alors ils classent les représentations, bon, celui qui est le plus joué et tout ça, et ils ne disent pas si c'est joué devant une personne, 50 ou 1000. Alors c'est tout à fait faussé. Alors, c'est comme si on vous disait, alors monsieur, voilà, vous êtes champion de France, vous êtes le meilleur buteur du championnat de France entre 18h15 et 19h16. Aussi débile.
Je continue ma question.
Allez,
j'ai dit Coltès pour voir.
Et moi, je continuerai ma réponse.
J'ai dit Coltès pour voir si vous ne dormiez pas. Non, pas vous, je parle de eux. Quelle position occupez-vous dans le peloton des auteurs vivants ? Échappés, distancés, voiture balayée ?
C'est pas.
Vous n'aimez pas ma question ?
Non, moi je vais continuer ma réponse. Pour être plus précis, disons qu'il y a différentes manières, différentes voies pour aller au même endroit. Alors, ce qu'il y a de pire, finalement, de plus comique, c'est que deux personnes qui prennent la même voie n'arrivent pas au même endroit. C'est une philosophie. Donc, je l'ai fait. On est dans les temps, hein. Donc, on a le temps. Alors. Disons qu'il ne faut surtout pas avoir de modèle et se mettre à le suivre. C'est le plus surprenant de se tromper que vous.
la limite, il vaut mieux faire n'importe quoi, sans aucune raison. Ce qui compte, c'est faire. Parce que l'idée qu'il y a une différence fondamentale entre le théâtre public et le théâtre privé est artificielle. Regardez les acteurs, ils passent de l'un à l'autre sans aucun problème. Alors, il y en a peut-être deux ou trois hystériques d'un côté comme de l'autre qui disent « Non, moi, jamais, dans ce boule, parlez là !» Mais c'est tout. Il faut manger. Là où on trouve des fauteuils vides, ben, là, c'est notre métier. On ne va pas demander le papier des gens qui vont occuper ces fauteuils. Toujours avoir à l'esprit que la base, ce sont des fauteuils vides. Ah, bien sûr, si tu mets le prix des places à 80 euros, c'est pas pareil que 10 euros. Bon. Ça change la composition de la salle. Mais toi, est-ce que ça te change? Voilà la dimension philosophique. Ne pas changer d'état d'esprit selon devant qui on se trouve. Ça, c'est pas facile. Par exemple, clairement, je disais très souvent, c'est celui qui avait marqué le premier but de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome au printemps 1938. Il disait souvent, regarde, Serge, mon petit Serge, regarde. C'est chez les pauvres, il y a beaucoup de communistes. C'est normal. C'est ceux qui ont rien qui veulent tout partager.
Question 87. Quand est-ce qu'on va enfin vous mettre au programme du baccalauréat ? Du CAPES, de la création. Pensez-vous qu'il est possible qu'un jour on vous donne à étudier dans les collèges? Pensez-vous que ce soit souhaitable? Et l'Académie française, alors?
Je réponds à l'autre. Si cette année je ne demandais pas aux élèves de se ramasser des moins 52 à la fête, alors vas-y. Oh, c'est débile comme question. Qu'est-ce que j'ai à la réponse? Je réponds, oui, il faudrait qu'on m'étudie. Pour comprendre, il faudrait qu'on étudie, pour qu'on comprenne quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Non, c'est ça, maman. Bon, m'en fous, m'en fous. Alors, quant à l'académie, alors déjà, si tu as échappé au sida, au cancer du poumon, cancer du côlon, des os, du sang, à la leucémie foudroyante, à la syphilis, à la rupture d'anévrisme, à la crise cardiaque, aux accidents de circulation, pas de travail, au suicide, à l'overdose, à l'assassinat et à l'Alzheimer précoce, alors effectivement, ça peut être une porte de sortie. Se déguiser en vert avec les lumières qui montent sur la tête, pourquoi pas. Si ça les amuse, pour ma part, moi je ne vois aucun inconvénient.
Est-ce que l'arrivée de la biographie et de son biographe appelle la mort? Ou bien, c'est la mort qui appelle le biographe vautour. C'est moi le vautour. Est-ce que je vous mange le ventre?
Alors, on a qu'à dire une chose. Disons que ce que nous sommes en train de faire, c'est biographie, première partie. Comme ça, on efface tout et on recommence à zéro. Et on se retrouve dans 50 ans pour biographie, deuxième partie. Alors, j'imagine bien, je vois ça ici. Ta première question. Alors, Serge Galetti, vous avez pris le bateau pour Tanger dans le milieu de l'année 2004, et racontez-vous ce naufrage. Est-il vrai que vous avez été pris par des pirates javanais au large des îles Canaries?
J'aimerais revenir un instant à Marseille, votre patrie. La mer est votre patrie. La ville sale et bruyante est votre patrie. Vous satisfaites-vous? Il y a deux écoles. Vous satisfaites-vous et... Vous satisfaisez-vous de ce berceau? Cette identité est-elle bien raisonnable? A-t-elle fait de vous un écrivain régionaliste? Aimez-vous Fernandel qui faisait rigoler les Parisiens sur le dos des gens du Midi?
Il est né au Marchal. Moi, la région Martin, où je suis né, est perpendiculaire au Marchal. C'est un historien, ça, c'est un truc. Si un truc n'est pas rien, c'est vraiment ça. Moi, je suis là à Marseille, bon, ben voilà. Je fais ce que j'ai, c'est contingent. Je vais pas me mettre à parler avec l'accent picard. C'est comme ça. Alors, c'est les autres, les gens qui remarquent ça, qui se disent que ça doit influer quelque part. Mais moi, non, ça n'influe pas.
Oui. Vous remarquez, je tourne autour d'un trou noir et je sais.
Plutôt.
Cela me concerne un peu aussi. Avez-vous souffert de la moquerie à propos de votre accent? Avez-vous essayé de le supprimer, de l'adoucir? Connaissez-vous qu'il est l'ersatz d'une vieille langue?
En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai perdu cet accent ou si je ne l'ai jamais eu. Je ne me rappelle pas avoir fait l'effort de le perdre. De toute façon, je n'ai pas vraiment pas fait l'école de théâtre. Je ne sais pas où j'aurais appris à le perdre. Non, mais peut-être que je me suis bridé moi-même pour pouvoir avoir la capacité de tout jouer. En fait, en réfléchissant, je crois que le fait d'écrire pour le théâtre m'a obligé à visualiser dans ma tête les lettres des mots que je disais. Et donc, c'est ça qui a dû jouer. Je crois que les gens qui gardent l'accent, pas possible. C'est surtout parce qu'ils ne réfléchissent pas. Disons que ce n'est pas le problème de se rendre compte comment sont agencés les mots, les lettres, les mots, les phrases. Alors, si tu as une conversation, tu ajoutes tous les quatre mots. Ah ouais, mon bon, alors, on est allé là, peut-être, je vais rentrer là, les bancs. Alors, c'est ça qui contamine l'accent, le fait chanter. Ce sont tous ces mots parasites. Bon, parce que sinon, à part les voyelles, peut-être, rose ou rose. Bon, il est humé, puis en marseillais, c'est pas grand-chose, l'accent, hein, parce que c'est quand même... Oh putain, bon... Parce que les Parisiens aussi, ils ont un putain d'accent, pas possible, hein. Je t'ai pas dit que je suis venu. Ça, c'est un accent, c'est aussi ridicule. Ça va. Ouais, l'accent, si. On peut se moquer toujours. Mais en fait, ça va être lié à l'écriture. Comme tu écris, tu visualises, donc... En bonheur.
Souffrez-vous de cette souffrance qui fait de Marseille une ville attachée et éternellement seconde? Non, je ne parle pas de foot.
Non, de moins en moins seconde, de moins en moins. C'est certain qu'à l'époque, pour faire ce métier, les comédiens ont été obligés de partir à Paris, mais moi, ça m'a pas du tout gêné, puisque moi, j'ai trouvé Paris formidable. C'était exaltant, mais Marseille, j'en avais fait le tour, j'ai changé d'air. Moi, j'ai jamais râlé en me disant, merde, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ce métier chez moi, dans ma ville, oh Marseille. Non. Pour faire ce métier, je pense, c'était partir, tout laisser, changer d'air. C'est pour ça que, c'est pas que j'aimais pas ma ville, oh Marseille, où j'étais né. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est seulement en ce sens que moi je ne me trouve pas régionaliste, quoi. Au sens revendicatif du mot. Moi ce qui m'intéresse, c'est le monde entier, Rio de Janeiro, formidable, Lisbonne, Fès, la Médina, les hôtels, la plage, le palmier. Voilà, moi je vis en voyageant. En plus, pour faire mon métier, c'est bien, c'est intéressant de faire ça. Mais je ne me vois pas du tout être resté aux deux régions Martin. De quoi faire, qu'est-ce que je fais? J'ai eu envie de voyager, de partir, on sait bien, c'est pas bien. Où est le problème? Non, j'ai répondu, c'est bien.
Question 103.
103.
Je voudrais passer
ça,
un moment avec vous sur la pièce, si vous êtes des hommes. Elle me semble une de vos plus belles par le thème et une des plus mystérieuses par la voix. Je veux dire que on y comprend d'abord rire, que dalle, comme on dit sur le carreau et capucin. Et qu'ensuite, elle développe un concentré de votre force de représentation du monde. Des très pauvres, très abandonnés, très inhumains, donc, d'une certaine manière, occupe le musée de l'homme, vête les oripeaux des peuples disparus et vive un grand moment d'histoire. C'est pour le coup un théâtre engagé.
Alors, bon, ça, c'est, il faut parler à propos de la première scène, si vous êtes des hommes, qui est une sorte de dialogue incompréhensible. Bon, c'est l'application très fidèle d'une théorie que j'ai mise au point. De l'incompréhension qui fédère les spectateurs. Et donc s'ouvre la salle, ce qui permet après d'avancer ensemble. Puis aussi le début, le fait de mettre noir sur blanc, le côté début de la représentation, où les retardataires arrivent, dérangent les autres, les gens qui enlèvent leur manteau, tout ça, les papiers de bonbons font du bruit. Bon, ce n'est pas la scène d'exposition, mais au contraire, la scène de mise en bordel total du sens. Alors à ce moment-là, dans la salle, le PDG, bien le gardien du soir, se retrouve à égalité.
tous les deux. Pourtant, venant de milieux complètement différents, ils sont à égalité. Tous les deux ne comprennent rien. Donc à partir de ce rien, on peut commencer. D'habitude, on essaie de fédérer les gens. Et on dit, est-ce que tout le monde a compris? Alors oui, alors commençons. Voilà. Mais là, c'est l'inverse. Est-ce que personne n'a rien compris? Non, non, alors on commence. C'est l'inverse. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça marche. Hein. Enfin, bon, c'est une tentative d'appliquer une théorie. J'ai une sorte de... Comme la manga, quand on est... Pour les nés, on passe. Bon, on y reviendra. Bon, ça renvoie aussi au langage des exclus, dont on dit que l'on ne comprend pas.
Un théâtre politique, on dira. Puisque tout est politique, et les pires politiques, ce sont ceux qui prétendent ne pas l'être. N'est-ce pas, Serge Valetti?
Oui, bien sûr.
Je sais pas. Disons que cette pièce, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est comme dans Sandrine Bande-Annonce, on était de l'intrigue, de la passion, de l'aventure, de l'amour, du suspense. C'est ça que j'aime bien dans cette pièce. Mais bon, alors même, oui, de la politique, parce que bon, ben, bien sûr, c'est, mais de politique, il y a simplement le fait que je me rends compte que ben, au musée de l'homme, quand je le visite, il n'y a que des momies et des squelettes, et que tout ça est chauffé, et que dehors il y a des hommes dans des cartons qui ont froid. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est tout.
Voudriez-vous nous avouer la relation que vous créez nécessairement avec le livre de Primo Levi, si c'est un livre fondamental, si l'on est du XXe siècle?
Non, le titre, je le vois à la phrase, c'est-à-dire c'est un peu si vous êtes des hommes, ça veut dire c'est Yagel, la dernière, qui ferme, qui meurt à la fin, qui dit sortez dehors si vous êtes des hommes. Non, elle dit, mais venez, si vous êtes des hommes, genre, sortez dehors si vous êtes homme. C'est dans ce sens-là. Et moi je finis donc par si vous êtes des hommes. Et finissant sur ces mots, si vous êtes des hommes, cinq mots. Alors, comme une fois dit, parce que je vais finir la pièce, je n'ai pas de titre, je me dis, ben, je vais prendre ces cinq mots pour faire le titre, comme ça, la pièce va être entre ces deux mots. Comme une parenthèse, elle se répète avec les cinq mots, si vous êtes des hommes, et ça finit si vous êtes des hommes. Bon, après, je me rends compte que ça ressemble, si c'est un homme de toute origine. C'est comme ça, donc il doit bien y avoir un rapport, souterrain, inconscient.
Dans La Trêve, qui est la suite de Si c'est un homme, de Primo Levi, il y a des scènes homériques entre le héros et son compagnon d'aventure, un commerçant grec, qui seraient, elles aussi, dignes de Valetti. Je ne vous choque pas. Ce qui m'amène à une autre comparaison avec Albert Cohen cette fois-ci. Réfuteriez-vous le compagnonnage? Évidemment, Cohen nous est payé à vous et à moi, mais il y a autre chose, non?
Ah, oh, vous, frères humains, et comme vous l'avez dit, mon cher. Moi, j'aime beaucoup surtout la scène sur le cours Belzunce avec le camelot, cette scène-ci. Comment dire, centrale. Le remue énormément les gens.
Avez-vous à voir, Serge Valetti, avec l'humour juif?
Si vous dites, ce qui est certain, c'est que tous les rires ont un rapport entre eux, mais ce qui les provoque, en revanche, peut être différent.
Vous dites, en ouverture de « Si vous êtes des hommes », je n'ai pas la force de faire de la philosophie, je n'ai pas la force de faire de la politique, je n'ai pas la force de ne pas regarder la télévision, je n'ai pas la force de résoudre les problèmes de ce monde. Vous dites bien autre chose dans cette déclaration d'intention, mais je veux vous interroger essentiellement sur ceci que, malgré votre modestie, vos textes sont plutôt actifs. Ils ne passent pas leur temps dans le champ des oiseaux, ils mettent en scène des humains qui ont des problèmes humains. Vous ne changez pas le monde. Certes, mais c'est tout comme. Vous en connaissez qui le change mieux que vous?
Ben, si je dis les réalisateurs de radio, je vais en parler de l'HQ. Donc je dirais par exemple les cuisiniers, les vignerons, les navigateurs solitaires, ils nous débarrassent des dangers, les clients de chez soi, trois de ma père, les guides de haute montagne quand ils perdent leurs clients, les pompiers bénévoles quand votre maison brûle et qu'ils arrivent avec leur plein de pompes, les peintres d'une manière générale, et Jean Villard. À part ça, je ne sais pas.
Je voudrais vous interviewer sur le sujet du jeu. J.E.U. Je crois savoir que ce n'est pas chez vous un passe-temps, mais un vrai enjeu vital. Jouer, 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 jouer. Vos personnages passent leur temps à ça. Ils jouent les situations, ils jouent avec les mots, ils jouent leur vie. Il ne leur restera bientôt plus rien sur le dos. Est-ce que vous connaissez le film où Fernandel, capitaine de navire, joue aux cartes et perd tout le bateau et même la belle plante exotique dont il était le propriétaire? Le jeu se termine à la mouche. Savez-vous jouer à la mouche?
C'est pas le jeu où on met un sucre. Chacun met un sucre devant soi. Et alors, il y a une mouche qui est dans la pièce. Et celui qui gagne, c'est celui qui a le sucre sur lequel la mouche est. Je connais. Très très difficile, je... beaucoup de stratégie. Un peu de tactique, mais surtout beaucoup de stratégie.
Encore un nouvel exemple pour la jeunesse. Vraiment, de toute façon. Je suis presque sûr que vous êtes favorable à de tels exemples dans le public et à la jeunesse et à la terre tout entière. Finalement, vous êtes un immoral.
Ben, j'espère bien.
Ou alors un amoral, ce qui est pire.
Il faudrait savoir. C'est une question. Qu'est-ce que je veux dire? Si je dis oui, on va dire que c'est pas bien d'être amoral, et si je dis non, on va dire qu'il manque. Moi, je suis coincé, c'est ça. En fait, ce que tu cherches, c'est à être coincé. Hein? Depuis tout à l'heure, c'est depuis hier que tu cherches à être coincé, c'est ça. Hein? En fait, ça va finir en bagarre générale, cette histoire. Les immoraux contre les amoraux. Il y a les bourreaux qui regardent. Bon.
Alors, un petit peu de temps sur le féminisme. Vous voudrez bien?
Sur le?
Le féminisme. Vous êtes un homme délicieux sur le chat pic. Et vous faites le pic quand même avec la chatte. Les femmes, j'en suis sûr, vous admirent et vous aiment. Donc si vous êtes des hommes, vous faites dire à Yagen. Ah, ça fait du bien de se sentir dans les bras d'un homme avec qui on n'est pas d'accord. Et un peu plus loin, je veux bien que vous m'embrassiez, dit-elle, mais je lâche pas la saguée, je préviens. Vos personnages de femmes sont actifs, contradictoires, importants. Je ne vous flatte pas, je vous l'ai déjà dit, mais cela se voit. Vous aimez écrire pour les femmes.
Ben certainement, certainement. Et pour plusieurs raisons. C'est la magie, justement, des mots. De n'avoir pas de sexe. Alors, par contre, dans le théâtre, il y a beaucoup plus de filles que de garçons au départ, qui veulent en faire. Les garçons, ils font plutôt football. Et les filles ont beaucoup plus de mal à trouver des rôles. Et il y a qu'à voir les pièces de Shakespeare. C'est très disproportionné. Trop d'hommes et pas assez de femmes. Et dans le métier, c'est l'inverse. Alors, en fait, je crois que je suis du verbe suivre, et non pas du verbe être. Je suis simplement le mouvement actuel. Et qu'en plus, comme ça me plaît, ça marche.
Question sans honte. Parfois, un titre est à lui tout seul unique. J'en prends par exemple un article paru dans une revue où vous offrez au public une quasi-encyclopédie du théâtre. Après avoir passé des pages entières à parler des choses très importantes de notre art, comme la cour et le jardin, comment apprendre par cœur.
Alors, sais-tu que la date limite de dépôt pour ton questionnaire approche un grand pas?
Ça non, je ne connais pas d'autre date limite que le jour de jour.
As-tu reçu les réponses jusqu'à 67?
Tu n'as pas répondu aux réponses que je t'ai envoyées la semaine dernière.
Ben,
s'aligner autour de ces questions et y répondre vite.
Donne-moi 2 jours et j'y suis.
Sais-tu que je vais à Nice demain?
Tu mangeras une panisse pour moi.
Vas-tu vraiment arriver à 140 questions?
Nous n'en sommes pas loin, tu vas voir où est-ce que je peux te mener, au plus c'est long, au plus c'est bon.
Est-ce que tu crois que c'est la dernière question pour aujourd'hui?
Non. Oui. C'est pas Waterloo, mais c'est pas comme je boule mec tout comme un camion de toupie, et là je fais genre 140 questions. Genre questions, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je fais l'émission idéale, le Valetti idéal, voilà, c'est le titre. La bio totale décalée, pleine de questions à rallonge qui ronflent un quart d'heure, et on ne peut même pas répondre non, et on finit fatigué par dire oui, viens, viens, viens chez nous. Je me sers de notre vieux courrier, sauf qu'il m'en manque.
Sans détail, tu avais un peu tort quand tu as répondu oui à la question précédente.
Tu essaies de me perdre, mais je sais maintenant que je vais quelque part, même si je ne sais pas.
Et à part ça, ça va?
Magnifiquement, j'ai envie de 4.
Et ta mère, moi j'en ai une dans le jardin.
Je t'en parle.
Tu ne trouves pas fatigant les gens qui ont énormément de boulot?
Le genre Valetti, moi j'en ai pas beaucoup. Il faut qu'on m'en donne. Ceux qui ont trop n'ont jamais ma faveur.
Est-ce que tu penses que je vais m'arrêter un jour de te poser des questions idiotes?
Ne t'arrête jamais, c'est bientôt fini.
Quel temps vous avez à Paris?
Ça va.
Est-ce que tu te doutes de la question suivante?
J'aime pas savoir la venir.
Tu as bien dormi cette nuit?
Trop bien, d'un bloc, avec l'antigène.
Est-ce que tu sais que moi je me suis réveillé à 4h30 et que si j'avais eu des questions, j'aurais pu y répondre? Au lieu de ça, j'ai dessiné un portrait très réussi de plus d'Henri Victorien, d'homme de Dieu de Jacques Barre, le nouveau ministre du Café Théâtre.
Je veux pas savoir ce que tu fais la nuit, mais tu avais les réponses aux réponses des réponses à bûcher, sacré pont.
Penses-tu que ce serait une bonne idée d'écrire une légende puis du fou chronique?
La parole, il dit vague. Je vais faire celui qui dit oui pour lui faire plaisir. Oui, j'ai pensé cette nuit que quand j'aurai mon théâtre, je te commanderai une pièce.
Crois-tu qu'Ayago accepterait de jouer un peu le nom qui est libre?
Il est trop mauvais.
Et Raffarin, donc pour moi?
Pire, un vieux rocker.
Et là, c'est fini?
Jamais.
Oui?
Non.
Non?
Non.
Sais-tu alors qui t'envoie cet email? Et sais-tu avec qui tu t'es collé? Mel Gibson, Gérard Petit ou David Beckham?
Qui c'est Gérard Petit?
Dehors, pour que la question était une QCM.
C'est le nouveau théâtre des QCM?
Sais-tu ce qu'est une QCM?
Le contraire du théâtre.
Sais-tu que la réponse à la question était qu'est-ce qu'on en choix utile, à peu près?
Celle de Collioure, j'en ai un bocal et sans bon.
Elle des lois?
Non, là ce sont les brochets.
La fièvre?
La fièvre est montée.
Drôle de guerre?
Non, guerre le drôle.
Elle est bonne la précédente.
Et la mienne, un peu tendance.
Ça y est, on y est à 140. J'en peux plus.
Il était temps.
Fin.